يا ضحايا الكفاح، لأن على العهد حتى الفلاح. قفوا يا رفاقي بأن النجاح سنقطف أثماره باسمين. اهتفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال وتحيا الشمم، وتحيا الضحايا ويحيا العلم، وتحيا الدماء دماء ثائرين. جزائرنا يا بلاد الجدود، نهضنا نحطم عنك القيود، ففيك برغم العدا سنسود ونعصف بالظلم والظالمين.
Et voilà, c'était l'hymne du FLN, donc de la libération de l'Algérie après les 130 années de colonisation française. Et donc c'est pour introduire en fait le sujet de notre émission ce soir, parce que nous recevons Tramor Kemener qui vient de soutenir brillamment sa thèse de doctorat, Une guerre sans nom, insoumission, refus d'obéissance et désertion de soldats français pendant la guerre d'Algérie 1954-1962. Donc Tramor, bonsoir.
Bonsoir.
Une guerre sans nom, N-O-N.
N-O-N,
sans négation, enfin sans refus.
Voilà, une guerre sans nom, point d'interrogation.
Point d'interrogation.
Voilà, point d'interrogation. C'est vrai qu'à la radio, ça s'entend peu, ça se lit peu. Donc une guerre sans nom pour savoir s'il y avait des refus ou pas pendant la guerre d'Algérie, pour cette guerre qui n'a pas été nommée pendant longtemps, justement.
Donc ton travail en fait s'inscrit déjà dans, enfin c'est un sujet un peu neuf je crois, et ça s'inscrit aussi dans un renouveau, puisqu'on a déjà reçu Sylvie Thénault et plusieurs autres historiens sur cette question de la guerre d'Algérie. C'est un nouveau élément à le retravail sur cette question de la guerre d'Algérie de la part des historiens.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on est rentré dans l'histoire de la guerre d'Algérie véritablement, avec l'ouverture des archives aussi, ça a permis un certain renouveau. Et puis on est passé progressivement de la mémoire en fait de la guerre d'Algérie à des choses qui étaient vécues par des acteurs qui faisaient des livres dans lesquels ils prenaient aussi, ils mettaient un petit peu de leur vécu dedans. Et progressivement on passe à une véritable histoire de la guerre d'Algérie grâce à des archives qui s'ouvrent. Et puis voilà, grâce du fait de personnes qui n'ont pas vécu cette période là, donc qui le regarde de manière peut-être un peu plus détachée.
Oui. Parce que sur un sujet comme le tien, qu'est-ce qu'il y avait avant ton travail précisément ?
Pas grand-chose, sinon rien du tout. Donc c'était une question qui restait un petit peu en suspens. Il y avait quelques petites choses qui étaient connues. Et au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai commencé, il y a eu des choses qui ont été produites. Il y a eu un livre notamment de Erika Fraters, c'est un nom collectif, un anagramme de réfractaire qui est paru en 2004, je crois, il y a quelques années, sur des objecteurs. Il y a eu un mémoire de maîtrise de Clément Grenier sur les manifestations de rappelés de 55, qui ont quelques petites choses, mais aucun travail en tout cas de synthèse sur la question du refus pendant la guerre d'Algérie. Donc on restait un petit peu sur un vide, sur un trou noir.
On restait surtout sur un chiffre, 3000 réfractaires, 3000 insoumis. Et c'est un peu ça aussi d'abord ce que tu as apporté dans ton travail de recherche, c'est que tu as mis un peu ces chiffres à neuf, à jour.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, le chiffre de 3000, même, c'était un chiffre qui était avancé pendant la guerre d'Algérie.
Voilà.
Il y a eu plusieurs chiffres qui étaient avancés par les partisans et les opposants de la guerre d'Algérie, et même parfois justement les partisans de la guerre d'Algérie, en fait plutôt de l'Algérie française, avançaient des chiffres aussi qui étaient assez élevés finalement, pour montrer l'ampleur un petit peu du camp de la trahison, entre guillemets, et donc on était resté un petit peu sur ce chiffre de 3000 pendant la guerre d'Algérie, et puis brusquement, si vous voulez, après la guerre d'Algérie, on est revenu sur des chiffres beaucoup moins importants, puisqu'il y a une sorte de volonté de ne pas réitérer une sorte de mythe résistentialiste de la guerre d'Algérie par rapport au mythe résistentialiste qui a existé par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de nombreux résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et 60 000 fusillés.
Voilà, exactement. Et puis, donc, je pense que certaines personnes n'ont pas voulu refaire la même chose. Et puis, comme il n'y a pas eu d'opposition non plus franche, d'opposition structurée à la guerre d'Algérie, du coup, en fait, les personnes ont vécu des parcours un peu solitaires. Et ça n'a pas été une opposition très structurée. Du coup, ils apparaissaient peu, en fait, d'un point de vue public. Et donc tout ça, ça a contribué à ce que le chiffre s'effondre complètement, jusqu'à ce que même des historiens évoquent le nombre de quelques centaines, voire de quelques dizaines de personnes qui se seraient réellement opposées à la guerre d'Algérie. Et donc là, effectivement, ma recherche a permis de montrer qu'il y avait eu beaucoup plus de personnes que cela, parce qu'on arrive à un chiffre de 12 000, au bas mot, 12 000 personnes qui ont refusé de participer à la guerre d'Algérie.
Et donc justement, qu'est-ce que tu entends par refus ? Enfin, ça recouvre quel type d'acte et qui, en fait ? Et dans ces 12 000, comment ça se répartit ?
D'accord. Alors, donc les 12 000, en fait, c'est 12 000 insoumis, déserteurs et objecteurs de conscience. Alors le problème, c'est un petit peu, ce sont des catégories juridiques. Donc j'ai dû faire un petit peu avec les catégories juridiques du code de justice militaire. J'ai dû partir de là parce que j'ai dû partir des archives. Et donc les insoumis, ce sont les personnes qui refusent d'aller directement au service militaire. Les déserteurs, ceux qui partent du cadre militaire, et les objecteurs de conscience, ceux qui, au moment de rentrer, en fait, refusent soit de porter l'uniforme, soit de porter les armes. Alors, ça, ce sont trois catégories juridiques de désobéissance individuelle.
C'est dans le code militaire, c'est ça ou...
C'est que militaire. Et encore, il y a un statut un peu particulier, c'est-à-dire que les insoumis dépendent de la justice militaire, mais ne sont pas des militaires, parce qu'ils ne sont jamais devenus. Donc il y a une catégorie un petit peu plus bancale. Et donc 12 000 personnes. Alors il y a beaucoup plus d'insoumis, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes ont généralement préféré, qui étaient opposées à la guerre d'Algérie, n'ont préféré pas y rentrer directement dans le cadre militaire. On tombe, donc là c'est un petit peu moins de 9, on arrive à 9-10 000 insoumis, un peu moins d'un millier de déserteurs. Les déserteurs, par contre, ça c'est important aussi, j'ai dû faire avec les archives militaires, même chose, ce sont les déserteurs en Algérie, dont les unités étaient basées en Algérie. Or, il y a eu des déserteurs qui ont déserté de France aussi. Donc ça, c'est un autre point. Et le dernier point, donc les refus d'obéissance, on arrive à 400 objecteurs qui font partie de la catégorie plus générale des refus d'obéissance. Et là, même chose aussi, il est pour l'instant impossible de savoir combien il y a eu de refus d'obéissance, parfois pour des actes graves aussi à l'intérieur du cadre militaire, mais pour l'instant, il m'échappe complètement. Donc je pense que voilà, 12 000, c'est un point de base, et peut-être que il y a aussi d'autres choses, d'autres personnes aussi en plus.
Mais concrètement, un chiffre comme celui-là, tu le construis sur quelle base ? Où est-ce qu'on trouve ces 12 000 personnes pour un historien ?
Aux archives militaires en particulier. Donc, ce qui est, ça peut paraître paradoxal, parce que je vais chez les militaires pour essayer de trouver les personnes qui ont refusé le cadre militaire. Mais en fait, aussi, depuis longtemps, en fait, l'administration, toutes les administrations, évidemment, sont très attentives aux personnes qui désobéissent à leur cadre, qui rentrent pas dans leur cadre. Là, je reprends tout simplement l'étude de Michel Foucault aussi, sur surveiller et punir. Et les militaires sont scrupuleusement, les désobéissants militaires, sont scrupuleusement comptabilisés depuis très très longtemps. Il y a certainement des personnes qui passent au travers des mailles. Il y a certainement des personnes qui ne sont pas, qui sont jugées ou punies hors du cadre législatif, réglementaire, etc., etc., dans le cadre militaire. Mais on va dire que d'un point de vue général, il y a quand même une comptabilité assez scrupuleuse tenue par les militaires.
Il faut peut-être rappeler aussi la proportion. 12 000, c'est sur la période 1954-1962. 1% environ du total des effectifs appelés, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Donc, par rapport aux chiffres qui préexistaient, c'est énorme. C'est une multiplication, au-delà même de ce qu'avançaient les opposants français à la guerre d'Algérie pendant cette guerre. C'est très peu. Ça fait 1%, effectivement, d'un million.
C'est pas insignifiant non plus.
Non, c'est pas insignifiant non plus. Mais c'est vrai que par rapport à 1 200 000 appelés en Algérie, ça fait tout simplement du 1%. Ça peut paraître très peu. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça cache, ce sont des désobéissances, les désobéissances les plus graves en tout cas, ou qui se voient. Donc c'est un petit peu la face émergée de l'iceberg, et ça masque aussi toute une face immergée de l'iceberg d'actes qu'on n'a pas connus, d'actes d'opposition au sein du cadre militaire. Donc si on pouvait dire qu'il y avait eu que quelques dizaines, quelques centaines de personnes à s'opposer, automatiquement la guerre d'Algérie aurait été largement acceptée et l'iceberg finalement aurait été tout petit. Par contre, si on a 12 000 personnes dans une face émergée de l'iceberg, l'iceberg en dessous de la mer a été beaucoup plus important.
Dans ce contexte, à l'époque, on risque quoi à être déserteur, insoumis, parce que c'est pas un acte anodin.
Non, c'est pas un acte anodin. Certaines personnes, beaucoup de personnes qui ont refusé craignaient la mort. Certains ont été condamnés à mort. Mais certains l'ont été.
Combien ?
À ma connaissance, 3 personnes l'ont été, notamment Noël Favrelière, dont le témoignage était relativement connu, qui a déserté d'Algérie avec un prisonnier, en libérant un prisonnier, qui allait être promis à la mort et qui a traversé le désert. Enfin, c'est une aventure, on va dire, entre guillemets, une aventure extraordinaire. Et même, il jouait sa vie, véritablement. Et il a été condamné à mort par 2 fois par la justice française, notamment lui. Donc, c'est un des actes les plus importants. On a eu également Henri Maillot, qui est également une figure connue. C'était un communiste algérien qui a déserté avec un camion d'armes en 1956 pour alimenter le maquis rouge communiste et pour alimenter aussi en armement l'ALN en Algérie. Et enfin, donc, une autre figure. Ici un peu plus un peu plus particulière parce que c'était un militaire qui était engagé et qui a commis un acte de droit commun en tuant son supérieur et en désertant, en passant à la LN. Il a été repris par la suite par l'armée française. Il a été condamné à mort et gracié simplement en 1968. Donc c'est une figure un peu différente ici.
D'accord. Donc, au-delà de cette... Donc, il y a le cadre de la répression, mais on voit en fait surtout que les formes d'insoumission, de réfraction au service armé évoluent suivant le déroulement du conflit algérien entre justement le début de la guerre en 1954 et la signature des accords d'Évian en 1962. Il y a différentes périodes qui se succèdent. Tu en as distingué 3. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer justement qu'est-ce qui se passe entre ces basculements entre les 3 périodes?
Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai distingué à partir en fait des chiffres de désobéissance 3 périodes. La première qui se déroule plutôt l'année 54, on va pas la compter, donc c'est surtout 55 et 56.
Quand le contingent est appelé
quand le contingent le contingent était déjà présent en Algérie, mais on a deux phases de rappel sous les drapeaux, c'est-à-dire des personnes qui ont été libérées du service militaire et qui doivent retourner au service militaire dans des périodes plus ou moins longues, la plus longue étant 18 mois. Donc après 18 mois de vie civile, retour au service militaire. Donc on imagine qu'effectivement, ils l'acceptent très très peu. Et il y a eu 2 phases très importantes en 55 et en 56 de manifestations importantes. On a parlé tout à l'heure des manifestations des cheminots. Il y avait eu beaucoup de manifestations autour des gares et autour des convois des trains. Donc ça, c'était une première phase importante.
Des manifestations qui sont à l'initiative des appelés ou de la famille, des gens, c'est, comment ça se passe un
peu ? Les deux. En fait, il y a des manifestations d'appeler, de rappeler, que ce soit des manifestations, ça peut être des manifestations importantes. La première, c'est en septembre 55, le 11 septembre 55 exactement. C'est donc des personnes, des rappelés qui prennent le train à la gare de Lyon et qui... de la gare de Lyon à Paris, et qui refusent d'embarquer et qui vont créer... donc le terme de mutinerie, à l'époque, est employé même par l'armée française. Donc créer une importante manifestation, et on va avoir même des révoltes très importantes, notamment début octobre à Rouen, en octobre 55 également, avec une véritable mise à sac de la caserne, et puis donc des manifestations, des heurts très violents avec les CRS, voilà pour 55. Pour 56, on a un mouvement qui est encore plus important avec, voilà, ici une convergence aussi, hein, dans les deux cas, tant en 55 qu'en 56, une convergence entre des civils proches, effectivement, des rappelés, et puis donc ces rappelés-là. Donc on a des manifestations qui sont parfois uniquement militaires et parfois uniquement civils et parfois les deux. Donc il y a un petit peu tous les cas de figure.
Mais si on reste sur le cas propre de 55-56, de ces premières mobilisations, c'est quoi les motivations? On est sur le registre, on veut pas aller faire la guerre, ou il y a déjà quelque chose de l'ordre du politique dans ces mobilisations?
Il y a une frange qui est plutôt une minorité, qui est plutôt politique. La majorité, en fait, des rappelés sont plutôt sur une revendication de ne pas refaire une période de service militaire. Mais même à partir de 56, c'est-à-dire juste après la deuxième phase de rappel, on a déjà une volonté. La majorité de la population française veut l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que les gens refusent, en fait, sont déjà persuadés que l'Algérie va vers l'indépendance. D'ailleurs, ils ont voté en faveur du Front républicain en janvier 56, suite aux manifestations de 55. Et les gens veulent, en fait, le Front républicain arrive sur le mot d'ordre de paix en Algérie. Et les gens attendent Mendès France, qui a déjà fait la fin de la guerre d'Indochine et l'indépendance de l'Indochine. Donc, les gens attendent Mendès France pour arriver au même résultat. Manque de chance, ce sera Guy Mollet qui arrive, qui va au contraire, lui, intensifier la guerre ensuite. Donc, en fait, on a des mots d'ordre, on va dire, qui ne sont pas politiques forcément, mais qui débouchent assez facilement, on va dire, sur des fondements, on va dire, politiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce cadre derrière. C'est-à-dire les gens, ce qu'on voit le mieux, c'est plutôt des revendications, du refus de partir en Algérie, et puis ce qui se cache derrière, qui n'est pas forcément visible, mais qui est quand même là, c'est un refus de partir en Algérie et pour l'indépendance de l'Algérie. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore formulé, pas dit, peut-être clairement.
D'accord, mais...
Stop, I done into the other
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, toujours avec Tramor Kemener sur les réfractaires à la guerre d'Algérie. Donc on en était à la première période du conflit où on voyait un mouvement prendre forme autour de ceux qui refusaient de rembarquer pour l'Algérie au sein du contingent. Ce mouvement devait prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête et qu'on entre dans une nouvelle phase qui va prendre plus l'aspect du témoignage? C'est quoi le basculement à ce moment-là?
Le basculement, en fait, c'est... Il y a un mouvement très important. Donc, il y a plus de 300 incidents. Je crois qu'à un moment, on parle d'un train sur cinq qui est bloqué. Donc, il y a des incidents...
C'est les chiffres, là.
Voilà, des chiffres importants. Malheureusement, en fait, il n'y a aucun parti politique, aucune organisation qui soutient les rappelés, donc en dépit de la très forte opposition des rappelés. Et puis de ce fait-là, en fait, au fur et à mesure, on a une sorte d'effritement en 56, au printemps 56, de la mobilisation, et les gens finissent par y aller au fur et à mesure. Et au moment où ils arrivent en Algérie, en fait, il n'y a plus de forme d'opposition possible. Ils sont repris en main en quelque sorte. Il y a très très peu de manifestations en Algérie. La peur s'installe, ça c'est un élément très important. On arrive dans un pays en guerre, donc voilà. Toute contestation au fur et à mesure disparaît. Et comme les rappelés au fur et à mesure partent, au bout d'un moment, il n'y a plus de rappelés, donc il n'y a plus de manifestation. Et donc là, on passe sur effectivement une deuxième phase, en fait, à partir de la mi-56, qui sont en fait une période de refus individuel. Donc il n'y a plus eu de contestation collective. La contestation collective est morte, en quelque sorte. Par contre, il y a des gens qui sont toujours mobilisés contre la guerre, qui sont toujours opposés à cette guerre-là. Ils vont s'opposer à l'intérieur du cadre militaire. Ils vont s'opposer aussi en quittant le cadre militaire.
Et donc ça va prendre l'aspect, le fameux texte dans Esprit ou dans Les Temps Modernes, où justement il y a des appelés, souvent des officiers, enfin des sous-officiers.
De tout.
Qui racontent ce qu'ils vivent sur place et qui font prendre conscience un peu à l'opinion, lancent le débat, notamment dans le milieu intellectuel, sur justement la question de la guerre en Algérie.
Voilà, et donc ils arrivent en Algérie, on va dire, à partir du milieu de l'année 56. Ils y restent jusqu'à la fin de l'année 56. Et tout ce qu'ils vivent en fait en Algérie pendant cette période-là, ils engrangent, ils témoignent, ils écrivent. Et tout ça, ça va sortir à partir du printemps 57 pour montrer, en fait, ça va être le moment du débat sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Tout ça explose au printemps 57 avec, par exemple, un militant scout, Jean Muller, d'abord lui, qui meurt dans une embuscade, d'ailleurs, en 56, qui va témoigner sur les tortures qu'il voit, avec le témoignage de Robert Bonneau, aussi, qui témoigne dans la revue Esprit, donc un témoignage très important, avec aussi le comité de résistance spirituelle, donc mis en place par Robert Barra, aussi, qui va montrer beaucoup de témoignages. Juste et simplement, ce qu'on peut rajouter, c'est que ce sont des témoignages, les témoignages, ce que je viens de citer là, ce sont les témoignages qui ressortent. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit en étudiant un petit peu la presse, c'est qu'il y a énormément de témoignages, même dans des petites feuilles locales qui sortent. Donc tout le monde, en quelque sorte, à ce moment-là, peut potentiellement savoir ce qui se passe en Algérie. Donc ça, c'est un élément très important aussi.
D'accord. Et ces témoignages, en fait, changent aussi la forme que prend la réfraction, le refus de participer à la guerre. C'est-à-dire que non plus parce que c'est la deuxième fois qu'on retourne en Algérie parce qu'on est appelé, mais parce qu'on est contre la torture. Il y a aussi cet aspect-là dans l'aspect insoumission. C'est qu'il y a un changement de perspective dans la tête de ceux qui sont censés y aller, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. Là certaines personnes, évidemment, se demande à partir de ce moment-là, et pendant toute la guerre de l'Algérie, ce sera prégnant, à être appelé au service militaire, c'est potentiellement devenir un tortionnaire. Mmh. Et certaines personnes se disent que est-ce que je serais capable de tenir ? Est-ce que je ne serais pas moi comme les autres ? Est-ce que je serais capable de résister à la machine ? Et en fait, il y a beaucoup de personnes aussi, et c'est pour ça qu'il y a des chiffres surtout importants par rapport à l'insoumission, il y a beaucoup de personnes qui décident de partir avant, parce qu'ils savent pertinemment, entre guillemets, où ils savent que ce sera extrêmement difficile pour eux, et même avec une peur par rapport à leur vie. C'est-à-dire que si je refuse, si je m'oppose à l'intérieur du cadre militaire, est-ce que je ne suis pas appelé, est-ce que je ne vais pas être amené à périr avec un sous-officier, avec un officier, ou voilà, bref, donc... Ça joue énormément aussi.
Et même au sein même du cadre militaire, ce qui se produit à ce moment-là, c'est ce que tu appelles des micro-désobéissances, c'est-à-dire que des appelés sur le terrain, dans leur caserne, font preuve de marque d'insoumission, de résistance à l'appareil militaire. C'est ça aussi qui marque aussi la période, peut-être.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, voilà, le fait de témoigner ce que j'appelle une micro-désobéissance, le fait de s'opposer à certains actes, de refuser, je sais pas, une corvée de bois, par exemple, ou même, pour aller plus loin, en restant dans le cadre militaire, par exemple, d'aider la LN. Certains l'ont fait. J'ai retrouvé notamment une personne qui avait aidé la LN en étant à l'intérieur du cadre français et en étant militaire français. Donc, il y a énormément de cas particuliers. En fait, le terme de micro-désobéissance, un petit peu, c'est plutôt, je l'ai employé pour les personnes qui restaient au sein du cadre militaire et qui s'opposaient d'une manière ou d'une autre, soit oralement, soit par écrit, soit dans des actes, à la guerre d'Algérie. Donc, en fait, et ce terme-là, simplement, le terme de micro-désobéissance, je le tire de Jacques Semelin, historien et politiste Jacques Semelin, qui a notamment fait un travail important sur la résistance civile à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je me suis un peu basé sur ces travaux pour essayer de mettre en place ce terme de micro-désobéissance-là.
D'accord. Et donc, à ce moment-là, on voit apparaître de nouvelles formes de structuration de désobéissance. On va voir apparaître des comités, les légions un peu conscientisées, politisées, commencent à monter des comités, des organisations de jeunesse contre l'utilisation du contingent, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi ?
Oui, donc à partir de 1956, même certains, dès 1955, il y a eu des comités qui ont été créés. On a des comités donc, qui vont perdurer. Et à partir de 1957-1958, comme ces comités perdent un petit peu de leur force. Et par contre, ce qu'on va voir arriver plus tôt, c'est des créations ex nihilo de formes d'opposition à la guerre d'Algérie. Donc, comme il y a eu toute l'opposition collective qui était existante dès le départ, en fait, au fur et à mesure, les grandes organisations politiques, le PCF en particulier, se sont éloignées à partir de 1956 des formes collectives d'opposition. Donc, il a fallu recréer en fait de toutes pièces, et ça a été une des difficultés de la guerre d'Algérie, des opposants à la guerre d'Algérie, il a fallu recréer de toutes pièces une opposition structurée à la guerre. Et donc à partir de 1958 surtout, on voit une opposition se structurer avec des organisations clandestines. On connaît les porteurs de valises à partir de 1957, et en 1958 par exemple il y a aussi le Jeune Résistance qui se met en place, qui est créé et qui est inventé et donc qui commence à voir le jour.
Tu peux nous présenter un peu
Voilà, alors Jeune Résistance, ça part de trois personnes en fait, hein. C'est trois individus qui ont déserté en 56 pour Louis Oran, donc c'est un ouvrier communiste qui a déserté en 56. Ensuite on a Jean-Louis Hurst, qui est également un communiste, un instituteur communiste qui est appelé et qui déserte un peu après les événements de mai 58. Et un de ses collègues, on va dire, ou un de ses camarades, qui lui est chrétien, qui deviendra communiste par la suite, et qui s'appelle Gérard Meyer, et qui déserte à peu près en même temps que lui, en fait. Et donc, ces trois personnes se retrouvent en Suisse et décident de créer Jeune Résistance, un petit peu en marge, en fait, des réseaux de porteurs de valises. Donc, Jeune Résistance, une organisation faite par et pour les réfractaires de la guerre d'Algérie.
Et leur motivation, l'objet précis de Jeune Résistance.
Alors, cet objet-là va évoluer au cours de la guerre. Au départ, c'est simplement de pouvoir, en quelque sorte, s'entraider. C'est surtout ça, et on a une base qui me semble assez intéressante au départ, c'est-à-dire de l'entraide, comment essayer de s'entraider, comment essayer de s'aider pour, je ne sais pas, obtenir des papiers, par exemple, à l'étranger. Parce que donc il faut trouver pouvoir travailler ensuite, essayer de trouver du travail, ensuite aussi de pouvoir se loger, s'héberger, trouver un hébergement. Bref, des questions très très pratiques qui vont être d'abord mises en place. Et donc là, on a plutôt un point qui est proche, si vous voulez, d'une association en quelque sorte, une association d'entraide. Donc il y a aussi quelque chose qui est proche d'une organisation entre guillemets associative de masse. Et par la suite, par contre, on verra cette association, enfin association entre guillemets, évoluer beaucoup plus, de façon beaucoup plus politique et quasiment groupusculaire. Donc ça, c'est un peu plus tard.
Oui, mais justement, qu'est-ce qui fait basculer ce type d'organisation comme Jeunes en Résistance, ou qu'est-ce qui fait apparaître le réseau Janson, le fameux réseau Janson, qui va donner lieu ensuite dans le débat intellectuel à la fameuse manifeste des 121 sur...
Et donc là on entre dans la troisième période. C'est-à-dire que pendant ces années 57, 58, 59, on a la structuration du mouvement petit à petit, et qu'à partir du début de l'année 60, en fait, par le débat, en fait, il éclate, il y a un débat très important tout le printemps 60 sur les porteurs de valises et sur la question de la désobéissance dans la guerre d'Algérie. Et ce débat-là éclate justement avec des militants de Jeunes Résistances qui sont arrêtés en février 60 et qui vont faire exploser littéralement le débat. Ça va être de très très nombreux articles de journaux pendant toute l'année 60.
Mais juste pour revenir, parce que tu décris comme entre un porteur de valises et grosso modo des gens qui récupèrent de l'argent en France pour le ramener en Algérie pour aider à financer la résistance du FLN principalement, et des gens qui vont avoir des actes de désobéissance parce qu'ils refusent une corvée de bois, on voit qu'il y a un spectre quand même de refus qui relève peut-être pas tout à fait de la même chose. Comment on peut qualifier ça? J'imagine que tous ceux qui refusent d'obéir ne sont pas des indépendantistes forcenés.
Non, tout à fait. Et en fait, ça va être un des problèmes de Jeunes Résistances, qui va avoir beaucoup, beaucoup de mal à se positionner par rapport aux porteurs de valises. Ils vont à un moment vouloir prendre leur distance par rapport aux porteurs de valises pour simplement constituer en fait une organisation d'objecteurs, d'insoumis surtout, pardon, pas d'objecteurs, mais d'insoumis et de déserteurs opposés à la guerre, mais sans vouloir forcément aider le FLN. Par contre, il y a une frange qui aussi va être plus proche de l'aide au FLN, qui vient de là et qui elle aussi est beaucoup plus indépendantiste et favorable à l'aide au FLN. Et un petit peu ces tiraillements-là, on va les voir, ils vont être présents à l'intérieur de Jeunes Résistances. On va avoir d'autres tiraillements également qui vont apparaître au fur et à mesure entre les partisans de Francis Janson, le premier, le leader historique des porteurs de valises, en tout cas du plus gros réseau, même s'il y en a eu d'autres avant, donc qui était entre ses partisans à lui, donc à Francis Janson, et puis les partisans d'Henri Curiel, qui va lui prendre la suite de Francis Janson une fois que son réseau va être mis à mal un petit peu au cours de l'année 60 par les arrestations. Donc il va y avoir des partisans de Francis Janson et des partisans d'Henri Curiel à l'intérieur de Jeunes Résistances. Ça va contribuer à miner Jeunes Résistances aussi. Et puis un troisième élément qui va miner Jeunes Résistances, c'est la répression tout simplement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a des têtes qui apparaissent, on a des arrestations qui suivent.
Oui, mais justement, est-ce que tu peux aussi assez synthétiquement nous faire un panel de ce que risquent justement ces différentes formes d'engagement ou de désengagement par rapport à la guerre d'Algérie, parce qu'on sait donc que certains réseaux ont été démantelés. D'ailleurs, tu pourrais t'arrêter sur le rôle du préfet Papon qui était à la préfecture de police de Paris à ce moment-là, qui a sans doute quelques cadavres derrière lui peut-être ou simplement le simple Troufion qui refuse d'embarquer. Qu'est-ce qui risque? Il y a des disproportions.
Moi, tout à l'heure, j'ai parlé des trois personnes qui étaient condamnées à mort. En fait, il y a un spectre de possibilités extrêmement larges qui vont en fait de quasiment rien, c'est-à-dire même de la prison régimentaire et parfois aussi d'accommodement avec les autorités pour essayer de placer par exemple un objecteur de conscience à un poste à l'intérieur de l'armée qui puisse ne pas avoir à portée d'armes et n'avoir aucun inconvénient. Donc souvent, enfin pas souvent, en tout cas il arrive que les autorités militaires essayent de s'accommoder pour ne pas avoir un nombre trop important de personnes qui désobéissent. Donc ils sont prêts à essayer de faire des concessions plus ou moins importantes, et quand ils voient qu'il n'y a aucune concession, ils vont passer à la répression. Et là on peut avoir donc quelques mois de prison, et ça peut monter jusqu'à, donc comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la mort, et parfois même là, à l'intérieur du cadre militaire, en Algérie, simplement des personnes qui sûrement ont été, enfin là, on ne peut rien affirmer, mais certainement des personnes qui ont été exécutées sans autre forme de procès. Mmh. Donc il y a un spectre très très large de possibilités.
D'accord. Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, toujours avec Tramor Kemener sur les réfractaires à la guerre d'Algérie. Donc, puisque l'heure tourne, on avance dans les multiples questions qu'on a envie de te poser. Et moi, j'aimerais m'attarder sur les réactions en France, précisément par rapport à, bah, justement, à tout ce qui se passe autour des pioupiou. Quel a été le rôle de l'opinion publique dans l'inflexion qu'a pu avoir le gouvernement, enfin, les différents gouvernements, parce qu'en plus, on change de régime. Et aussi le rôle des organisations syndicales, politiques, le poids du PC et de la CGT sont alors quand même assez importants. Et quelle était la conduite de ces organisations face ben justement aux différentes formes de réfraction, d'insoumission à l'engagement?
D'accord. Alors, en fait, pendant longtemps, on a pensé que l'opinion suivait, était favorable, on va dire, plutôt à la guerre d'Algérie. En tout cas, elle était indifférente. C'est vrai qu'il y a de l'indifférence par rapport à la guerre d'Algérie, mais en même temps, le fait qu'il y ait eu beaucoup de personnes qui se sont insoumis, qui ont déserté, ça montre qu'il y avait une forme d'opposition quand même assez peut-être pas nette, mais en tout cas qui était prégnante dans la société française. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à partir de 1956, on a une majorité de la population qui est favorable à l'indépendance algérienne. Donc la population, en fait, elle ne va pas tellement se mobiliser contre la guerre d'Algérie, en tout cas difficilement, mais elle est plutôt favorable à l'indépendance. Voilà, on a ce facteur-là qui est prégnant. La population, d'ailleurs, aussi, je tiens à souligner, peut d'autant moins se mobiliser que les manifestations sont interdites pendant toute la guerre d'Algérie. Donc il y a une forme aussi, comment dire, quand on va manifester dans ces conditions-là, on sait que potentiellement on est réprimé. Bon, jusqu'à la manifestation du 17 octobre 61, évidemment la plus forte pour les Algériens, où là la répression a été massive, et la manifestation de Charonne en février 62, donc pour pour le côté français, on va dire, et le côté communiste aussi, de la population française. Donc voilà, sans aller jusqu'à dire que toutes les manifestations étaient autant réprimées, on sait que potentiellement, en tout cas, il peut y avoir des répressions assez dures. Donc ça freine la mobilisation. Donc voilà.
Et pour justement pour les appareils
politiques en fait et syndicaux, on a une modification importante qui arrive, qui se fait, qui se crée pendant la guerre d'Algérie. L'UNEF passe des majos aux minots, donc une minorité, la minorité qui devient minoritaire, qui devient majoritaire, c'est-à-dire qui deviennent en fait notamment sur la question algérienne, et qui mettent justement en avant le fait de parvenir à l'indépendance algérienne, donc ils sont sont favorables. C'est une question importante. Ils s'opposent sur d'autres questions depuis très longtemps. Et puis, ils vont même aussi jusqu'à rétablir les relations avec les étudiants algériens. C'est un point important. Il y a la création du PSU aussi, donc qui a, avec la, comment dire, la défection, les militants qui partent au fur et à mesure de la SFIO et qui sont opposés à la position de Guy Mollet, notamment dans la guerre d'Algérie, et qui vont au fur et à mesure partir et qui vont créer en fait le PSU en 60, et qui le PSU qui va avoir des positions assez difficiles par rapport à la question de la désobéissance. Mais la première réunion nationale du PSU va concerner la question de la désobéissance. Mais on a déjà on a déjà aussi à l'intérieur du PSU ici des tiraillements.
D'accord. Mais en fait, parce que tout ça va énormément marquer toute une génération militante.
Bien sûr, sur la presse, ça va beaucoup. Tout ça va beaucoup jouer par rapport à tout ce qui est les syndicats également. On a effectivement toute une génération qui va être formée par la guerre d'Algérie. Cette génération-là, on va la retrouver. Peut-être pas directement dans mai 68, mais ça va former les petits frères, entre guillemets, les petites sœurs de mai 68, qui vont être formés aux techniques même de manifestation, d'opposition à la guerre d'Algérie, et on va les retrouver après à manifester de ce point de vue-là. Voilà pour une forme. Et puis les questions, par exemple, de désobéissance civile aussi vont prendre un essor certain pendant la guerre d'Algérie, et on va les retrouver jusqu'à aujourd'hui. Des formes de manifestation avec très peu de militants, par exemple, et qui vont réussir à produire des choses très importantes. On va voir, par exemple, les manifestations contre les OGM ou d'autres, par exemple.
Mais alors, parce que l'heure avance là, mais grosso modo, tu nous parles de 12 000 réfractaires. Il y a une machine judiciaire, une machine du militaro-judiciaire qui se met en place en plus. En 62, il y a l'indépendance algérienne. C'est quoi l'issue pour ces gens-là? Ils vont tirer leur peine? Ceux qui sont en exil vont rester en exil? Qu'est-ce qui va se passer pour ces réfractaires?
Exactement, en fait. Ceux qui sont en prison et jugés vont rester en prison pendant un certain temps. Ils sont libérés dans plusieurs années après. Certains sont libérés simplement en 64-65 et donc ils sont amnistiés en 66. Pour ceux qui sont en prison mais pas jugés encore, eux vont être en liberté provisoire. Ils ont une meilleure situation dès la fin de l'année 62. Et ceux qui sont en exil, le reste jusqu'à l'amnistie en 66. Donc là, pour la majorité, certains même ont été amnistiés simplement en 68.
Mais leur combat quand même a été, il y a eu quand même il reste quelque chose, c'est le fameux statut d'objecteur de conscience acquis en 63.
Voilà, on a peu parlé des objecteurs, mais eux aussi vont mener leur propre campagne, surtout à la fin de la guerre d'Algérie, à partir des années 60, même avant aussi, avec la figure de Louis Lecoing. On a ensuite, à partir de l'année 60, un autre mouvement qui milite en faveur de l'objection de conscience, et je parlais de désobéissance civile et civique. Il s'agit de l'action civique non violente elle va aussi avoir mettre en place des actions en faveur des objecteurs à partir de 60. Et effectivement, ces deux composantes-là, si vous voulez, vont amener la création du statut des objecteurs en 63, qui est la première grande faille dans le système de conscription français. Donc à partir de cette faille, première faille-là, on aura tous les services civils qui vont naître ensuite. Mais avant, on a un service militaire, point à la ligne.
Alors voilà, moi j'aurais bien aimé parler de beaucoup d'autres choses, parce que y compris tu étant historien sur cette question de la guerre d'Algérie, dans les polémiques récentes qu'on a connues sur les usages de l'histoire, sur l'aspect positif de la colonisation. Alors évidemment, tu as une minute pour y répondre, mais quand même ça a dû percuter l'historien que tu es de te retrouver pris dans ce débat à ce moment-là. Comment tu vois ça, et les menaces successives d'usage comme ça très politicien par le pouvoir de l'histoire?
Bien sûr, on a une tentative actuellement de rétablissement d'une histoire officielle qui est très préjudiciable évidemment à l'établissement de l'histoire, parce que en fait cette histoire officielle là se base simplement sur des groupes de population, et donc va essayer de jouer un électorat en faveur d'un électorat, et c'est évidemment très préjudiciable parce qu'on ne sort pas en fait des oppositions de mémoire qui ont déjà eu lieu longtemps avant, entre les anciens Européens d'Algérie, les harkis d'un côté, on a les anciens militaires, peut-être les opposants aussi, hein, mais qui sont eux beaucoup moins forts, on va dire, beaucoup moins structurés, il le reste encore, et de jouer la carte de certains électorats en faveur contre d'autres, évidemment c'est extrêmement préjudiciable pour l'écriture de l'histoire. On ne peut pas faire une histoire téléguidée par le pouvoir. Donc ça, c'est évidemment, et évidemment aussi l'histoire, la colonisation n'a pas un sens positif. C'est évidemment une autre leçon. On peut dire, même en restant parfaitement neutre, qu'elle n'a pas de sens du tout, la colonisation. Voilà, ce qui laisse le champ libre. Peut-être que certains trouveront que la colonisation a un sens positif, d'autres en tout cas ne le pensent pas. Et de pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer librement, peut-être qu'il en sortira des vérités meilleures que de dire que simplement que l'histoire a un sens positif, ou etc., etc. Voilà.
Bien, ben, merci beaucoup Tramor d'être passé dans nos studios. On espère prochainement lire ta thèse, puisqu'elle est programmée peut-être.
Oui, pour l'instant je suis encore en débat et en recherche.
Il y a des préventes ?
Non, il n'y a pas de prévente malheureusement. Mais voilà, normalement ça devrait être publié, j'espère prochainement. Enfin, il y a un petit peu de temps, parce que pour passer du format de la thèse à celui du livre, il y a beaucoup de coupes à faire. Donc j'espère au cours de l'année 2008, sinon tout début 2009.
Bah écoute, nous on espère qu'on aura l'occasion à cette occasion-là de revenir sur ce travail qu'on a évidemment eu que le temps de survoler aujourd'hui dans le temps qui nous était imparti, mais merci beaucoup.
Merci. On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front. Et selon les catégories juridiques du Code de justice militaire, il y avait ce soir autour des micros, pour commencer, un déserteur, celui qui ne supportait plus de voir la reine Fabiola tous les jours à la télé. Il a donc pris son sirop de liège sous le bras et il est venu grossir le rang des chercheurs en haillons en France. C'était Cédric. Et puis, toujours selon le Code militaire, lui, c'est un insoumis refusant le diktat de la mode et de la diététique. Le plus imperméable des bolcheviks, c'était Guillaume, qui était avec nous ce soir. Grâce à son syndicat et ses petits bras musclés, c'est plus qu'un train sur cinq qui était bloqué, c'était Benoît ce soir. Et puis derrière la vitre, un doigt sur la gâchette, un doigt sur la console, on retrouvait le porteur de valises pleines de bière, c'était Jérémy. Il y avait aussi Alex, et il y aura bientôt les sirènes du port d'Alexandrie, puisque voici Claudia, que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.